Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'empreinte de l'histoire. Nous continuons notre petite analyse-observation de l'aqueduc dit du Pont du Gard, qui est en fait l'aqueduc d'Uzès à Nîmes, un aqueduc qui a été très important à la période antique et qui continue de l'être en tout cas pour notre département, avec la trace incroyable qu'il a laissée avec justement le Pont du Gard. Alors comment s'est passée cette construction ? Avons-nous des traces qui nous permettent de nous faire une idée de la mise en place de cet ouvrage remarquable ? Tout d'abord, une fois la décision prise de construire un aqueduc, il importait aux ingénieurs de trouver une source suffisamment importante en termes de volume et de régularité, mais également en termes de qualité. Enfin, trouver une source dont l'altitude soit supérieure, mais pas trop, à son lieu d'arrivée. L'eau de la fontaine d'Eure s'est donc avérée offrir un débit intéressant de 430 litres secondes en moyenne, avec un minimum de 130 litres et un maximum de 2500 litres à la seconde. Et une hauteur intéressante puisque la source se trouve à une altitude de 76 mètres et que le départ de la canalisation se trouve, lui, à 71 mètres et des poussières. Soit en fait 12 mètres plus haut que le réservoir, le Castellum Divisiorum, ce qui laisse donc une pente suffisamment importante, mais pas trop, pour que l'eau s'écoule avec suffisamment de tranquillité. Il est à signaler que certains ouvrages parlent d'une différence parfois d'une hauteur de 17 mètres. Toutefois, ce chiffre ne veut rien dire si on ne le met pas en correspondance avec la pente moyenne observée. Revenons au choix de la source de l'Eure. Il faut d'abord admettre qu'aucune autre source de même ampleur n'est alors connue ou disponible à moins de 40 km. Et donc, une fois la source trouvée, et bien évidemment, qui correspondait aux contraintes géographiques, il fallait s'assurer de la pureté de l'eau. Vitruve, un architecte de l'époque, nous renseigne sur le processus. Il conseille d'observer l'allure et la santé des habitants du lieu. Il précise leur état physique. Ont-ils l'air en bonne santé, mais aussi intellectuels, ont-ils l'air sains d'esprit ou alertes ? Il précise même plus loin dans son discours qu'une eau transparente est pure et que si dans celle-ci se développent des joncs ou des mousses, alors elle est donc vraisemblablement polluée. L'eau des sources de la fontaine d'Eure a donc dû plaire aux ingénieurs romains, les rassurer, tant sur le débit que sur la qualité. Il est à noter, à ce stade, que la construction de l'aqueduc était placée sous la protection, finalement, de divinités aquatiques, puisque le lieu était sous la protection, je parle des fontaines d'Eure, des Dae Urae, c'est-à-dire les déesses de la fontaine d'Eure. À partir de là, l'aventure commence. Choisir le tracé, mobiliser les hommes. Nous ne savons pas véritablement combien d'hommes ont été mobilisés pour ce chantier. Je parle, bien sûr, de la globalité de l'aqueduc. S'il y avait une majorité d'esclaves, ou non. S'il y avait, comme la légende l'avance, fréquemment, des légionnaires. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y avait des géomètres et des ingénieurs hydrauliques, qui pouvaient d'ailleurs venir de l'armée, car c'était des techniciens très compétents, et selon les périodes de l'histoire, ils n'étaient pas toujours mobilisés par la légion. Il y avait les agrimensores, les équivalents de nos géomètres actuels, et il y avait les libratores, qui étaient en fait les équivalents de nos ingénieurs hydrauliques, qui étaient capables de calculer la pente, le libramentum. Quoi qu'il en soit, tous ces ingénieurs avaient bien sûr des ouvriers et des outils qui allaient avec. Tous ces outils donc, tous ces hommes mobilisés pour la construction. Alors, premièrement, l'unité de mesure qui a été choisie par les ingénieurs, qui a été donc utilisée pour le pont du Gard, est le pied antique classique, qui est de 0,29 cm avec quelques petites poussières derrière. Et les outils, parmi les outils, il y avait la dioptra, qui correspondrait aujourd'hui au goniomètre, c'est-à-dire un instrument de topographie pour lever des plans et des mesures d'angle, et aussi qu'on employait pour les viser. Il y avait le tripaston, ou la chèvre. C'est en fait une sorte de grue munie d'une poulie et d'un treuil qui était capable de soulever, avec bien sûr l'énergie humaine, des blocs de plusieurs centaines de kilos, on parle même d'une tonne. Il y avait la corobate ou le corobate qui est une sorte de niveau avec un fil à plomb qui calcule là aussi la pente et qui permet également la préparation de la conduite et du l'aqueduc. Il y a également la Groma, constituée de 4 fils à plomb à angle droit, utilisée là aussi pour l'alignement. Enfin, bien sûr, tous les outils classiques des ouvriers, la pioche, la pelle, les charrettes et tout ce qui permet de construire un édifice. L'aqueduc, une fois terminé, comporte 15 km à fleur de terre, dont 6 km en élévation. Encore une fois, le pont du Gard n'est qu'un bout de l'aqueduc. Et 35 km sont enterrés ou souterrains, dont 4 km de tunnels. Et en son milieu, je reviens dessus, son ouvrage phare, le pont du Gard, d'une hauteur de 49 mètres et d'une longueur de 275 mètres.
En streaming ou en podcast, toutes nos émissions sur radioalliance+.fr.